Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Manchester. L'État islamique visait des enfants, visait des familles. Le monde, l'Europe, une nouvelle fois touchée par le terrorisme islamiste. Bruxelles, le sommet de l'OTAN, c'est l'heure des premières pour Emmanuel Macron et Donald Trump, fraîchement arrivé au pouvoir. Riyad, danse du sabre pour le président américain et discours de main tendue vers le monde musulman. Et puis Téhéran, dans le collimateur de Donald Trump, justement, l'Iran, qui réélit pour une nouvelle fois le président réformateur Rouhani. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Jean-Christophe Ploquin. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fabrice.
Rédacteur en chef dans le quotidien La Croix, chef du service étranger. Jean-Dominique Merchet nous accompagne également. Bonjour Jean-Dominique.
Bonjour.
Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion, animateur de son blog Secret Défense. Alors on y avait consacré une émission entière la semaine dernière avec Pierre Servant, avec Myriam Benrad, avec ce gros plan sur le terrorisme islamiste. Et encore une fois, qui a frappé cette semaine avec ce vendredi des chrétiens égyptiens, des coptes, hein, attaqués, il y a une vingtaine de morts, une base afghane attaquée par des talibans, 15 morts ce vendredi, l'État islamique qui revendique un double attentat suicide à Jakarta en Indonésie, et puis la tuerie de Manchester qui visait, je vous le disais, des enfants, des ados, des familles venues assister au concert de Ariana Grande, 22 morts, une soixantaine de blessés.
Nous quittions le concert quand nous avons entendu cette explosion, cette énorme détonation. J'ai juste attrapé mon cousin pour sortir. Tout le monde hurlait.
Ouais, voilà, donc cette tuerie donc eh bien de Manchester, Stockholm, Londres, Saint-Pétersbourg, Paris, voilà dans les deux derniers mois, pas plus, hein, les grandes villes européennes frappées en attendant la prochaine, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les services disent, hein. C'est bien réseau qui serait à l'origine du massacre de Manchester, une dizaine d'arrestations, le kamikaze est un Anglais d'origine libyenne. Oui, Jean-Dominique Merchet, il existe encore donc comme ça des groupes structurés, parce qu'on a vu les derniers attentats finalement qui semblaient émaner d'individus isolés, prenant un camion, prenant une kalachnikov, prenant une machette, comme on a vu à Orly, comme on a vu également au Louvre, contre des militaires français.
Oui, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est un terrorisme multiforme. Il est clairement dans l'optique de l'État islamique, de Daesh, mais ça peut être aussi bien des choses très organisées. C'est très difficile à faire, hein, des réseaux, des commandos, comme on a pu voir à Bruxelles, par exemple, l'année dernière, ou alors d'une pure initiative un peu désordonnée du gars qui prend sa voiture et passe sur les Champs-Élysées et ouvre le feu sur un policier en le tuant. Donc, tout ce champ existe, de l'opération très complexe jusqu'à l'initiative basique. Et donc, le problème des services de sécurité, c'est qu'ils doivent répondre à tout cela. En même temps.
En même temps. Ouais, c'est justement, voilà, on l'a vu, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, autre chose qui montre le côté organisé, même si on sait que Daesh est en difficulté aujourd'hui sur le terrain en Syrie ou en Irak, mais le côté organisé, c'est la cible finalement, où on retrouve un peu les caractéristiques du Bataclan, c'est-à-dire viser des familles, viser vraiment un mode de vie, la musique occidentale en quelque sorte. Et là, on sent bien qu'on est dans une cohérence finalement de la part de Daesh dans les cibles et finalement le type de message que Daesh veut envoyer finalement à nos pays. Voilà, par rapport à notre mode de vie, par rapport à ce qui fait notre culture.
Le renseignement, puisque vous en parliez, Jean-Dominique Merchet, donc on l'a vu sur le terrain, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de tout sécuriser. On l'a vu notamment dans cette aréna de Manchester, où ils ont frappé à l'extérieur au moment où les gens sortaient. Beaucoup repose bien sûr sur le renseignement, sur l'avant, hein, sur la prévention. En matière de renseignement, il y a une marge d'amélioration, on peut faire toujours plus, évidemment, s'il y a les fonds nécessaires, s'il y a le budget nécessaire. Tout ça coûte très cher, hein.
Oui, c'est pas une science exacte. Ni le renseignement, ni la police ne sont des sciences exactes. C'est un peu, si on pouvait prendre une comparaison, comme la médecine. Quand on peut traiter des malades, des patients, des gens, par exemple sur le cancer, on voit qu'on arrive à guérir beaucoup de gens du cancer, ça a fait des progrès formidables, mais il y a toujours des gens qui meurent du cancer, malheureusement. Le terrorisme, c'est un peu la même chose. On peut lutter très efficacement, on peut prévenir déjà, et puis traiter lorsque les choses, on voit que ça va se déclencher, et faire que les attaques soient le moins mortelles possible. On peut donc faire des choses, mais ça ne marche pas à 100%. Et on ne peut pas à chaque fois dire « c'est incompétent, il faut changer ». Non, c'est pas vrai. On a les meilleurs médecins du monde qui arrivent à soigner énormément de maladies, mais pourtant il y a des maladies qui continuent à leur échapper. Eh bien, le terrorisme, c'est la même chose.
Et dans ce contexte, est-ce que la France a les moyens de répondre face au terrorisme? Je vous lisais dans l'Opinion, comme je le fais toutes les semaines, tous les jours, Jean-Dominique, vous faisiez remarquer quand même que l'exécutif est en plein flottement, faiblesse de l'équipe du ministre de l'Intérieur, les chefs des trois principaux services de renseignement, DGS, DGSI, DRM, qui vont bientôt quitter leur poste pour des questions d'âge, des questions de retraite. Oui ou non, y a-t-il une désorganisation des services de renseignement français? Non.
Il n'y a pas une désorganisation des services de renseignement français. Il y a simplement un changement politique et au niveau politique, au niveau des ministres, des cabinets, des grands chefs, il y a un peu de flottement là en ce moment, clairement. On voit que les équipes qui se sont installées au pouvoir, les ministres, le Premier ministre, le Président de la République, ne sont pas des gens qui viennent de ce monde, qui depuis des années travaillent sur ces sujets, alors que on avait ces équipes précédemment, ces équipes politiques. Donc il y a effectivement un moment de flottement qui, espérons, ne durera pas. En revanche, ça ne met absolument pas en cause le travail des services de renseignement.
Des fonctionnaires sur le terrain, bien sûr. Ils
continuent à faire le travail de manière extrêmement professionnelle. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu pointer, c'est cette espèce de flou, de flottement, plus exactement, de flottement politique qui, espérons, ne durera pas.
Ouais, on reparlera de la lutte contre le terrorisme, mais simplement, le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, il le rappelait cette semaine, il veut renforcer la coopération européenne antiterroriste. Hein, il l'a rappelé plusieurs fois. Elle avance, cette coopération, malgré le Brexit ou pas, Jean-Dominique Mercher?
Alors, souvent, on mélange deux choses. Évidemment, il y a une très étroite collaboration entre les pays européens, et notamment entre la France et la Grande-Bretagne. En revanche, souvent les gens disent, oui mais l'Union européenne, en fait, en réalité, l'Union européenne n'a qu'un rôle marginal dans la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est certainement pas là que ça va se passer. Les services, les policiers coopèrent de manière bilatérale, c'est-à-dire lorsqu'ils ont besoin, ils appellent leurs collègues de l'étranger sans passer par une superstructure, une sorte de FBI, voilà. Donc c'est pas ça. Donc il y a une très bonne coopération des services de police. Il n'y a pas de structure bruxelloise, on va dire, qui réponde à ça. Mais peut-être y en a-t-il pas vraiment besoin.
Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Emmanuel Macron, je crois, a le souhait aussi de renforcer finalement la fonction renseignement à l'Élysée.
Oui.
Et donc, on va voir
si dans les task force,
c'est ça. Voilà. Donc, une soixantaine de personnes
capables de décider dans la demi-heure.
Exactement,
de quoi faire.
Qui seraient un peu sous la responsabilité directe de l'Élysée. On va voir si ça peut renforcer encore un peu plus la capacité de lutte antiterroriste. Ouais.
Plus on souhaite prolonger jusqu'au 1er novembre le fameux état d'urgence qui avait été décrété donc fin 2015 après les tueries de Paris, de Saint-Denis, et puis faire préparer une nouvelle loi contre la menace terroriste. Puis en matière de coopération, puisqu'on en parlait, il faudrait pas qu'il y ait de bugs aussi. Hein. Londres, très mécontente de fuite sur l'enquête de l'attentat de Manchester, puisque des photos partagées avec les services de renseignement américains se sont retrouvées où ça? Dans la presse britannique. Colère de Theresa May exprimée à Donald Trump lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles, lequel Donald Trump affirme qu'il poursuivra les auteurs. Oui, Jean-Dominique, ça ne va pas calmer les tensions entre le président américain et ses services de renseignement, cette histoire.
Il faut reconnaître que les Américains font un peu n'importe quoi. La même semaine, vous avez le président Trump qui dit aux Russes, il livre aux Russes des informations que les Israéliens lui ont données. Ensuite, il y a cet épisode avec les Britanniques, et il y a un troisième épisode avec le président des Philippines,
Duterte.
Et comment s'appelle-t-il, Trump, lui explique benoîtement, j'ai un sous-marin nucléaire vers la Corée du Nord, ne t'inquiète pas. La dernière chose qu'un président fait dans le monde réel, c'est de dire où sont ces sous-marins nucléaires. Eh bien, il le dit à un président qui, par ailleurs, était sans doute aussi bizarre que lui, d'ailleurs, puisqu'il a un comportement parfois un peu étonnant. Bref, on est dans le n'importe quoi. Et donc, les alliés sont réellement inquiets. Parce que maintenant, quand les Américains ont une information, on n'est pas sûr qu'elle ne se retrouve pas sur la place publique. C'est embêtant. Il y avait déjà eu Wikileaks et toutes ces affaires. Alors, ils donnent des, les Américains donnent des leçons au monde entier, sauf que en pratique, c'est quand même eux qui laissent fuiter les choses.
Ouais, il a la langue toujours bien pendue, Donald Trump. Hein,
oui, puis la relation de confiance entre les services de renseignement, c'est quand même fondamental. Effectivement, ça c'est le renseignement, c'est je te donne une info et tu m'en donnes une autre. Et si effectivement on se rend compte que la discrétion n'est pas assurée, ça va perturber énormément les échanges.
Alors encore un mot justement sur les ratés de la présidence Trump. Hein. L'étau se resserre-t-il donc concernant les liens supposés du clan Trump avec la Russie? Hein. Cette fois, c'est le gendre, hein, c'est proche conseiller du président, Jared Kushner, qui est visé par l'enquête du FBI, vaste enquête, hein, qui devrait faire la lumière aussi bien sur les ingérences de Moscou dans la campagne, sur le rôle de l'ancien conseiller de la sécurité nationale, Michael Flynn, et puis dire aussi si Donald Trump a voulu faire pression ou pas sur la justice. Chaque semaine, chaque jour, sa révélation. Combien de temps Trump va-t-il durer comme ça? Tiens, Jean-Christophe Ploquin.
Ben moi, franchement, il y a quelques semaines, on parlait déjà d'impeachment et j'avais beaucoup de mal à y croire. Je pense qu'il faut pas, de la part de certains médias américains, peut-être prendre ses rêves pour la réalité. Mmh. Mais on voit effectivement que cette enquête sur les interférences possible, probable, de la Russie dans la campagne américaine et avec l'entourage de Trump prend des proportions de plus en plus grandes. Le fait que donc le gendre de Trump soit dorénavant finalement en demeure d'expliquer pourquoi il a rencontré l'ambassadeur de Moscou
l'ambassadeur de Russie aux États-Unis,
aux États-Unis, donc dans la Trump Tower, enfin donc ces relations qui ont été développées pendant la campagne, ça prend vraiment une tournure assez inquiétante pour Trump.
Jean-Dominique Merchet, de l'opinion.
Oui, ça illustre ce qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, c'est quand même cette décomposition politique du pouvoir américain. C'est quand même inquiétant. On voit des choses un peu... Enfin, c'est la première puissance du monde. C'est en principe une grande démocratie qui devrait bien fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas bien. Le système politique américain est profondément en crise. L'élection de Trump n'en est que la manifestation de cette crise. Donc, effectivement, on comprend que les Américains, en tout cas les Américains les plus ouverts, regardent avec beaucoup d'envie la France aujourd'hui. En disant, vous, au moins, vous élisez un gars à peu près sérieux, qui plus est plutôt sympathique, enfin en tout cas qui présente bien, et pas notre président. Alors évidemment, mais il va falloir faire avec Trump. Alors, je sais pas si il restera les 4 ans, s'il sera, à mon avis,
c'est long, toujours une procédure. Hein. Si vraiment cette procédure est lancée, oui. On reviendra d'ailleurs sur les premiers pas diplomatiques d'Emmanuel Macron, justement. Est-ce que justement, il va pas servir un peu de pôle de stabilité au milieu de toutes ces tourmentes, Trump, Brexit? Alors la lutte contre le terrorisme, on y revient au cœur ce week-end de la réunion du G7 de Taormina en Sicile, au lendemain du sommet de l'OTAN de Bruxelles. Bruxelles d'ailleurs, on va retrouver dans un instant Benaouda Abdedaïm, l'envoyé spécial de BFM Business, hein, qui nous attend. Donc Benaouda Abdedaïm, l'Alliance Atlantique, elle aussi, à son tour, s'engage contre Daesh.
L'OTAN entre en tant que telle, en tant qu'institution, dans la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Le secrétaire général explique qu'il va falloir tenir Mossoul en Irak après qu'elle sera reprise aux djihadistes. Ce plan est d'abord soutenu par les États-Unis et par le Royaume-Uni. L'Allemagne a décidé de lever ses objections initiales, mais la chancelière Merkel prévient qu'elle ne compte pas modifier la nature de l'engagement militaire de son pays dans les théâtres de combat. La France aussi considère que l'Alliance Atlantique n'a pas vraiment sa place dans le combat armé de la coalition. Une source à l'Élysée insiste sur le caractère important de diversité internationale de cette coalition à 69 partenaires. La délégation italienne a également jugé que vouloir mettre l'OTAN au premier plan ne peut que nuire aux relations avec les Arabes et les musulmans. Des diplomates européens préviennent que ces évolutions demeurent du domaine du symbole politique afin de satisfaire l'administration Trump. La contribution conservera donc son caractère actuel, c'est-à-dire la formation des forces locales et puis l'aide à la surveillance aérienne grâce aux avions AWACS de l'OTAN, les yeux dans le ciel de la coalition, selon la formule d'une porte-parole de l'organisation. Mais Fabrice, il va quand même y avoir une nouveauté, une cellule, une unité de renseignement ici au siège de l'institution qui permettent de partager les informations au sujet des combattants étrangers de l'OEI.
Voilà, Ben Aouda Abdedaïm, l'envoyé spécial de BFM Business, donc à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Jean-Dominique Merchet, l'OTAN est-elle une arme contre le terrorisme islamiste ?
Non, pas vraiment. Alors, effectivement, il y a besoin de coopération, et il y a de la coopération. Il y a, je crois, 37 ou 38 mesures qui ont été adoptées, la plupart étant des mesures secrètes, hein, qui n'ont pas été publiées dans les communiqués.
Pour l'instant.
Sur la coopération, non, mais qui à mon avis, n'auront pas... Enfin, on ne les connaîtra pas de doute. Pour sourire un peu, et pour revenir à Trump, certains aux États-Unis, dans la diplomatie américaine, expliquent cette mesure de l'OTAN en disant, écoutez, c'est très simple, il faut qu'on explique à notre président que l'OTAN sert à quelque chose. Et si on veut le convaincre que l'OTAN sert à quelque chose, il faut lui dire que l'OTAN combat Daesh, même si en fait, en pratique, ça ne changera à rien. Mais il faut dire OTAN égale combat contre Daesh pour convaincre en trois phrases notre président Trump que c'est pas obsolète.
Ouais.
Donc c'est une explication qui
obsolète,
vaut.
Obsolète, il avait dit que c'était obsolète pendant la campagne.
C'est voilà. Une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je crains malheureusement qu'elle ait une part de vérité. C'est-à-dire que c'est une histoire interne à l'administration américaine. Après, il y a quelques enjeux financiers. C'est pour ça que les Français et les Allemands râlaient un peu parce qu'on n'a pas envie de payer un peu plus.
On va en reparler.
On parle de toute petite somme. On parle de toute petite somme. Mais je crois effectivement qu'il y a ce côté. Trump ne comprend rien à ce qu'est l'OTAN, mais il ne sait pas ce que c'est. Enfin, il ne savait pas ce que c'était avant d'y aller, ou avant d'être élu. Et donc son administration lui dit « Oui, mais c'est bien l'OTAN, vous savez, monsieur le Président, ça va combattre les méchants islamistes en Irak. » Ah bon, alors dans ce cas-là, peut-être...
On y va.
Voilà. Je crains
c'est
que...
C'est en ça que c'est important pour les États-Unis que l'OTAN rentre directement en tant que tel dans la lutte.
Mais les États-Unis, la coalition, vous savez, la coalition, tous les pays qui sont dans la coalition, quasiment tous sont
tous
membres
dans
de l'OTAN.
Voilà. Donc, ouais, ça changera
tout
rien.
Tout ça, voilà, c'est...
Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Moi, j'ai pas l'impression, franchement, après ce passage éclair de Donald Trump à l'OTAN, j'ai pas l'impression qu'il aura beaucoup mieux compris, finalement, à quoi sert l'OTAN. Il n'a pas eu un langage véritablement réconfortant à l'égard des Pays-Baltes ou à l'égard de la Pologne, enfin les pays membres de l'OTAN pour qui la menace, c'est la Russie, et donc il n'a pas cité la Russie. Donc j'ai l'impression quand même que ça a été un passage éclair qui va avoir retenu quelques sensations, quelques impressions. Je ne suis pas sûr que ça va contribuer à renforcer sa vision stratégique de la place des États-Unis en Europe et vis-à-vis de la Russie.
Je crois qu'il a...
Jean-Dominique Merchet,
si je peux me permettre d'ajouter,
allez-y.
Tout ce qu'il fait, il ne le fait que pour son électorat américain.
Ouais. Il parlait aux Américains.
Il revient aux États-Unis en disant, voyez, comme j'ai engueulé les Européens, comme je leur ai dit... Payez plus, les gars. Voilà. Ouais. C'est ça qui l'intéresse. Ouais. La seule chose qui l'intéresse, c'est ça. C'est l'effet sur son propre électorat. Alors, on est dans une démocratie. Donc, bon, on peut pas non plus complètement balayer ça d'un revers. Mais, en gros, les Baltes, les Polonais, le Monténégrin qui l'écarte.
Non, mais ça, c'est extraordinaire.
L'écarte d'un geste. Alors que le Monténégro vient de rejoindre l'Alliance. Il écarte.
Comme 29e pays. Voilà.
Je pense qu'il n'en a rien à faire.
Il est là. On va rappeler la scène pour tous ceux qui nous suivent à la radio. C'est vrai qu'il y a quelques responsables politiques, dont le premier ministre du Monténégro qui est là. Trump est au fond. Et tout d'un coup, alors, pousse-toi de là que je m'y mette. Hop, il bouscule tout le monde. Il se met au premier rang, oui.
On voit les images
pour la télé. Juste le Monténégro, quand même, il rentre, mais tout ça n'a pas été très simple, parce que la Russie, quand même, a bien manœuvré pour empêcher que le Monténégro rentre, quitte aussi à agiter un peu les minorités, en tout cas les populations slaves pro-russes, ou les partis slaves pro-russes du Monténégro. Il y a une tentative d'assassinat il y a quelques mois contre le président du Monténégro pour ne pas qu'il rentre justement dans l'OTAN, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, tout à fait. C'est un enjeu crucial pour la Russie parce que finalement, à la fois la Serbie et le Monténégro étaient traditionnellement des alliés de la Russie dans l'ex-Yougoslavie. Hein, et le fait que l'OTAN arrive à détacher le Monténégro de cette sphère d'influence russe, en gros, c'est un revers pour la Russie.
Je repense à ce que disait Ben Aouda Abdedaïm, là, qu'on avait il y a quelques instants depuis Bruxelles. L'OTAN qui s'engage image, tiens, Jean-Christophe Ploquin, Jean-Dominique Merchet, est-ce que ça ne va pas donner l'image quand même d'occidentaux, aller se liguant contre les Arabes, contre les musulmans, Jean-Christophe?
Oui, oui, c'est la crainte exprimée par certains observateurs, c'est-à-dire que l'OTAN, c'est vraiment l'emblème, effectivement, de la relation transatlantique, de l'Occident, en quelque sorte, et le fait d'afficher l'OTAN comme puissance directement impliquée, ça peut avoir cet effet. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. De fait, tous les pays membres de l'Alliance sont déjà présents dans la lutte contre Daesh. Il y a aussi tous les pays arabes qui sont présents. Donc, faut pas en faire trop non plus sur ce registre-là.
Oui, Jean-Dominique Merchet.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. N'oublions pas que l'OTAN a été engagée massivement et l'est toujours d'ailleurs en Afghanistan, et que par ailleurs la Turquie est membre de l'OTAN et la Turquie est un pays de 80 millions d'habitants, quasiment à 100% musulmans. Donc, non, je pense pas que ce soit. On entend.
Elle a vocation à rester compte tenu de toutes les tensions qu'il y a actuellement autour de la Turquie.
Oui, vaudrait mieux d'ailleurs.
Non, je pose la question.
Voilà, parce que elle est alliée. Les alliés, c'est bien que les gens soient
divers.
C'est triste de voir quand des alliés s'en vont. Donc c'est bien quand on est dans une organisation, voilà.
Mais, juste qu'on soit bien précis, parce que c'est vrai, on a évoqué donc ces demandes de Trump, comme Obama a fait également, pour que les pays membres de l'OTAN montent à 2% de leur PIB leurs dépenses de défense. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Donald Trump, est-ce qu'il a été vraiment clair? Est-ce qu'il interviendra si un État est attaqué et au nom de la solidarité prévue par l'article 5 de la clause? Là, ça reste quand même flou.
Ça reste flou. Ouais. Sur l'article 5, il n'a pas prononcé, je dirais, la phrase carré qui permettrait justement aux alliés de l'OTAN, voilà, d'être sûrs que les États-Unis interviendront.
Ouais, Jean-Dominique Merchet.
Oui. Et en même temps, comme on dit maintenant, les États-Unis déploient des moyens militaires dans les pays baltes et en Pologne. Donc ils continuent. Sauf que le problème de Donald Trump ne fait que de la politique intérieure. Ouais. Donc, le problème de Donald Trump, c'est qu'il peut dire, qu'est-ce qu'on a dit il y a deux ans, nous, les États-Unis? Ce qu'on a dit il y a deux ans, c'est qu'il fallait que les Européens augmentent leur budget, ouais, ce qu'ils font presque tous, quasiment tous.
Et mais tous n'ont pas dépassé les 2%.
Oui, mais en tout cas, l'augmentation, oui, en tout cas, ça remonte.
C'est prévu. Ouais.
Et deuxième chose, il faut envoyer des troupes en Pologne et dans les Pays-Baltes pour rassurer ces pays face aux menaces russes. Ça se fait. Y compris les Américains le font. Sauf que si Trump dit ça, il dit Obama a réussi ce qu'il avait lancé. Et ça, jamais il ne voudra dire quelque chose comme ça. Donc il ne fait que de la politique intérieure. Voilà. Donc il a oublié Obama, il a oublié les États-Unis, le monde commence avec son élection. Mmh. Voilà, c'est tout.
Ce qu'on voit un peu, c'est l'administration suisse à logique, la défense, ministère de la défense américain finalement, et l'US Army suisse à logique aussi au sein de l'OTAN, et c'est ce que vous disiez par rapport à la présence américaine aujourd'hui dans les pays baltes et en Pologne, mais on a l'impression que Trump ne veut pas reprendre à lui finalement toutes ces tendances longues qui ont été enclenchées avant lui. Et lui, il est plus là effectivement pour faire la politique. Il est assez soucieux toujours de son propre business, je dirais, privé. Et aussi, il mélange très habilement donc les intérêts privés, les intérêts familiaux et les intérêts des États-Unis. Donc c'est très compliqué.
Seuls 5 États pour l'instant sont au-dessus des 2% du PIB. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Estonie, la Pologne, la France, c'est 1,7%. L'Allemagne, particulièrement visée, c'est 1,2%. Vous avez fait le calcul, vous, dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet, si tous les États membres atteignaient les 2%, ça rajouterait 100 milliards de plus à l'OTAN, c'est ça?
Oui, ce qui est énorme.
Oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Faire beaucoup
si
de choses avec.
Tous les gens tiennent leur objectif, on met 100 milliards de plus par an.
Par an.
Sur la table de la défense. Donc ça veut dire, c'est considérable. Donc ça va pas se faire tout de suite, clairement. Voilà. Ça va se faire progressivement.
D'ici 2025 pour la plupart.
D'abord, les Allemands partent de loin, donc il faut qu'ils remontent, mais bon.
Bon, on va revenir sur les débuts sur la scène internationale dans un instant de Donald Trump, qui était présent en Arabie Saoudite, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Vatican, Emmanuel Macron aussi. Tout ça, c'est dans un instant. Allez, quand même, retour quelques secondes encore à Manchester, d'où vient le groupe Oasis. Don't Look Back in Anger, chantait la foule a cappella jeudi à la mi-journée en hommage au souvenir des victimes. Ne vous laissez pas envahir par la colère, ne ruminez pas votre colère. On revient tout de suite sur BFM Business.
Don't look back in anger.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, retour sur l'actu internationale de la semaine, toujours en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef dans le quotidien La Croix, en charge du service international, et puis Jean-Dominique Merchet, qui anime son blog Secret Défense, hébergé par l'Opinion, où il sévit avec tous ses reportages, ses questions autour de l'armée, notamment du renseignement, oui, très très renseigné, comme on dit, sans jeu de mots. On va revenir dans un instant sur la première grande tournée internationale de Donald Trump, qu'on a un petit peu comment amorcé, hein, à propos de son escale européenne à Bruxelles et puis au G7. Et puis celui qui était scruté aussi cette semaine, c'était Emmanuel Macron. Les grands débuts aussi. OTAN, G7, la visite de Vladimir Poutine à Versailles ce lundi donc. Trump l'a reçu à déjeuner lui-même pendant presque 2 heures jeudi à l'ambassade américaine de Bruxelles.
C'est un grand privilège de me trouver aux côtés du président français qui vient d'être élu. Il a mené une campagne incroyable. Et il a remporté une victoire énorme.
Je suis très heureux pour ma part aussi d'être avec le président Trump. On a un agenda extrêmement large à discuter.
Alors, on va pas revenir sur la fameuse poignée de main virile, hein, voilà. Précédent, je cite, selon le chef de l'État, un long échange extrêmement direct et très franc. Jean-Dominique Merchet, ça va être quoi la ligne de Emmanuel Macron sur la ligne internationale? Comment est-ce qu'il a appris la diplomatie? Vous y voyez une diplomatie gaullo-mitterrandienne?
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, lui. Lui se présente comme un gaullo-mitterrandien. Pour faire rapide, et au risque de la caricature, il y a deux grandes tendances dans les affaires, dans les relations, dans la politique internationale en France. Il y a ce qu'on appelle la tendance gaullo-mitterrandienne, qui est plutôt sur le l'indépendance, le oui, prestige de la France, l'armée. Voilà. Donc de Gaulle et Mitterrand. Mmh. Et puis une autre tendance qu'on caricature un peu en la qualifiant de néoconservatrice, qui est plus alignée sur les valeurs occidentales, l'Amérique, une hostilité à l'Iran et une proximité avec Israël. Pour faire ça. Donc Emmanuel Macron lui-même, durant la campagne, dit « Je suis un gaullo-mitterrandien ». Donc ça veut dire qu'il est plus proche d'un Hubert Védrine ou d'un Dominique de Villepin que d'un... Voilà. Donc, mais après, on va voir ce qu'il fait. Là, on voit qu'il rentre dans le vif du sujet avec cette séquence diplomatique, cette première séquence diplomatique, et effectivement, sa posture... Et plutôt la posture d'un homme assuré, il n'a pas peur, clairement il n'est pas impressionné, et il rentre, puis après on verra au fur, on le commentera ici si vous nous faites le plaisir de nous inviter.
Attendez, Jean-Dominique, je suis clair, vous êtes l'invité permanent de 7 jours dans le monde. Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Oui, on voit que Emmanuel Macron s'inscrit aussi dans une tendance très forte de la diplomatie française de soutien au multilatéralisme. Et là, l'enjeu, par exemple, de la lutte contre le climat, le changement climatique, c'est quelque chose de très important pour la diplomatie française, parce que l'accord clé, il avait été obtenu à Paris, et on voit qu'il met vraiment avec insistance le sujet sur la table, parce que derrière l'enjeu du climat, c'est aussi cette capacité qu'a le monde à s'organiser, cette capacité qu'ont les grandes puissances finalement à de temps en temps laisser leurs intérêts propres derrière la porte et à se mettre autour d'une table pour définir un bien commun et un enjeu commun. Mais ça, je pense que Emmanuel Macron va vraiment s'inscrire dans cette tendance. Il y a un élément un peu nouveau, je dirais, par rapport à la tradition gaullo-mitterrandienne qui est quand même très affichée, mais on va voir comment ça va se traduire, c'est son investissement dans l'Europe. Donc, comment est-ce qu'il va utiliser le levier européen, finalement, et notamment la relation franco-allemande, pour pousser davantage les intérêts français et au-delà, finalement, une vision des intérêts de l'Europe. Ça, c'est un enjeu et c'est très nouveau, finalement.
Il va refaire de la France un moteur, Jean-Dominique Merchet?
Il l'a essayé, mais en fait, le moteur, pourquoi la France n'est plus un moteur? Parce que le moteur était grippé. Il est grippé, c'était pas la diplomatie française qui était grippée, même si on peut le critiquer, c'était l'économie française. Et effectivement, le décalage avec l'Allemagne, il était dans l'économie. Et si il arrive, avec ses réformes économiques et sociales, à remettre la machine économique en marche, effectivement, la France par nature, est un pays important et retrouvera de l'importance en Europe et ça soulagera les Allemands. Les Allemands n'aiment pas la situation actuelle du tout.
Vous avez raison.
Ils aimeraient bien retrouver une France avec laquelle on peut travailler beaucoup plus. Donc c'est plutôt positif pour l'instant.
Juste un mot, vous nous disiez, Macron, pas impressionné, justement. Tiens, l'autre grand rendez-vous important, lundi, justement, à Versailles, à l'occasion d'une expo sur Pierre le Grand, venu à Paris il y a 300 ans pile, hein, Vladimir Poutine sera à Versailles au Grand Trianon. Il semble ferme, Emmanuel Macron, hein, sur le dossier ukrainien, les cyberattaques, la Syrie. Est-ce qu'il va tenir tête à Poutine? Ça va ressembler à quoi cet entretien, Jean-Christophe Ploquin?
Ça va être d'abord passionnant à regarder, parce que Poutine est quand même quelqu'un qui impressionne ses interlocuteurs, qui a une présence réelle, physique, très forte. Et de toute évidence, ce qu'on a vu lors de tout ce week-end et la fin de semaine dernière, on voit qu'Emmanuel Macron... Je dis pas qu'on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, mais il est très à l'aise dans ces face-à-face. Et donc, je pense qu'il tiendra, oui, il soutiendra la comparaison avec Vladimir Poutine.
Je sais pas s'ils vont se broyer la main mutuellement, Jean-Dominique Merchet.
Oui. Une prise de judo, peut-être.
Oui, bah oui.
En tout cas.
Un peu noir, Vladimir.
Poutine a quand même besoin d'interlocuteurs. On a bien compris qu'il avait misé assez lourd sur Trump et que manifestement ça marche pas.
Ça colle plus.
Voilà, ouais. Non seulement ça marche pas, mais il y a beaucoup d'effets pervers. Donc Trump, je pense qu'ils ont fait une croix sur Trump. Ils considèrent quoi. Merkel, c'est compliqué entre Merkel et Trump. Merkel, elle connaît bien la Russie, l'Allemagne de l'Est. Elle leur fait absolument pas confiance. Elle les a eus sur le dos, les Russes, pendant toute sa jeunesse.
Bien sûr, en RDA, oui.
Donc, quels sont les grands pays membres permanents du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, enfin bref, des gens, quand ils disent, on les écoute. Ben, il y a la France. Ouais. Alors, ça se passait très très mal avec Hollande. Il ne le prenait pas au sérieux. Enfin, Poutine ne prenait pas...
Il a même annulé sa visite à Paris, parce que Hollande voulait absolument parler de Bachar al-Assad au mois d'octobre.
À la fin, il y a eu cette fâcherie. Ouais. Donc, là, Macron renoue le contact d'une manière extrêmement intelligente sur une affaire culturelle historique.
Bien sûr.
Par le Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la ville...
C'est Poutine.
De Poutine. Il invite le tsar... Enfin, c'est la première visite du tsar en France.
C'est plein d'images, plein de symboles.
C'est extrêmement intelligent. Et en même temps, Poutine a besoin de venir connaître... D'autant que Poutine, il est allé trop loin en recevant Marine Le Pen au Kremlin pendant la campagne présidentielle. Allé trop loin. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Donc là, lui aussi a besoin de renouer le contact, de dire, bon, on va voir, peut-être que ce jeune Macron, c'est quelqu'un à qui on peut parler. Et il vient voir. Donc ça va être c'est intéressant à observer.
Alors, sur la scène internationale, il y a un autre petit nouveau, c'est Trump, justement, qui, avant de venir à Bruxelles et en Sicile, s'était arrêté au Vatican. Juste un mot, hein, vous, le patron du service international de La Croix, le journal des religions.
On a vu un pape François quand même très concentré, pour ne pas dire très crispé, au début de l'entretien.
C'est insolite, et face à face.
Voilà, tout à fait. Et puis, une relation...
Le pauvre et le milliardaire. Hein.
Ouais, exactement. Et un contact, visiblement, quand même, qui s'est bien passé. On sait que le pape François a remis son encyclique qui était sur l'écologie et donc, en quelque sorte, la lutte contre le réchauffement climatique à Donald Trump. Bon, donc... Ils se sont parlé, c'était pas évident quelques mois auparavant.
Alors Vatican, mais aussi Israël, le Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations, les territoires palestiniens occupés, à Bethléem notamment. Est-ce qu'il a montré, Trump, comment est-ce qu'il comptait trouver un accord entre les deux camps? Est-ce qu'il y a une solution Trump, tiens, Jean-Christophe Ploquin?
Non, à ce stade, il n'y a pas de solution Trump.
C'est flou.
Ce qui est intéressant...
Un ou deux États, on ne sait toujours pas.
Oui, c'est ça, voilà. Donc, mais il a évolué, là encore, par rapport à ses discours de campagne, qui étaient très, très pro-israélien, et avec notamment cette idée de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Donc là, on voit que ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il a su aussi poser des jalons avec les Palestiniens, alors que je pense qu'il ne savait sans doute pas ce que c'était lorsqu'il était en campagne.
C'était assez furtif, hein, quand même.
Oui, ça a été furtif, mais ça s'est quand même passé. Donc voilà, mais voilà, il n'est pas du tout en situation de honest broker comme a pu l'être la diplomatie américaine pendant longtemps.
Ouais, c'est vrai, il n'y a rien eu sur un ou deux États. Il n'y a pas de condamnation de la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, annexée par Israël. Bon, mais quand même, il n'y a pas eu de reconnaissance, en effet, de Jérusalem comme capitale, comme le demandait la droite israélienne. Bon, tout ça, toujours très flou, hein, Jean-Dominique Merkel.
Oui, toujours très flou, mais toujours très flou parce qu'en réalité, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Les problèmes, ils sont dans la société politique israélienne, dans la société politique palestinienne. Et voilà, donc c'est pas un Deus ex machina venant de Washington qui va régler ça. Ça fait 20 ans que les Américains essaient, ça fait 20 ans que les Américains échouent. Voilà, ça va continuer comme ça.
Bon, et puis avant Israël et les territoires palestiniens, il y avait eu donc la première étape de sa toute première tournée internationale. Riyad en Arabie Saoudite, dimanche, avec de gros contrats d'armement d'ailleurs, le royaume commandant pour plus de 100 milliards de dollars d'armes, de matériel. Et puis ce message.
Je me tiens devant vous, ici en tant que représentant du peuple américain, et je veux délivrer un message d'amitié, de paix, d'espoir et d'amour. C'est pourquoi j'ai choisi de faire mon premier voyage à l'étranger, ici, au cœur du monde musulman.
Oui, oui, discours devant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement de pays arabes, de pays musulmans, discours rempli de bon sentiment. Il n'y a rien eu sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite, hein, à Donald Trump, plutôt affable. Il fallait, Jean-Christophe Ploquin, qu'il se rattrape justement après ses propos tenus pendant la campagne, quand il nous disait l'islam nous haït, quand il avait mis en avant ses premiers décrets anti-musulmans, anti-immigrés.
Oui, de fait, il avait, par rapport à la population musulmane vraiment mondiale, quand même tenu des discours extrêmement choquants. Le fait ensuite de choisir l'Arabie Saoudite, c'est évidemment l'Arabie Saoudite, le lieu où se trouvent les principaux lieux saints de l'islam, mais c'est aussi l'alliance stratégique entre les États-Unis et une grande puissance du monde arabe qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est revenu finalement sur un schéma classique.
On avait pu penser que c'était un peu égratigné.
Exactement.
Sous Obama. Hein.
Et là, on a le sentiment qu'effectivement, il cherche surtout à faire l'inverse de ce qu'avait fait Obama. Mmh. Donc il y a une espèce de jeu de miroir. Obama avait vraiment joué, avait pris un peu ses distances avec l'Arabie Saoudite et avait cherché à remettre l'Iran sur la scène régionale, voire sur la scène internationale. Et finalement, Donald Trump a fait l'inverse. Il vient vraiment affirmer, receller en quelque sorte l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et en même temps, depuis Riyad, il attaque très durement l'Iran.
Bien sûr.
Alors même que l'élection iranienne avait montré un souhait d'ouverture du peuple iranien.
Et Obama aussi, qui avait accéléré aussi les pétroles de schiste. Hein, sérieuse concurrence donc à l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. Ce que dit Jean-Christophe Ploquin, Jean-Dominique Merchet, Donald Trump, qui à Riyad, trace un axe du mal, le djihadisme, les terroristes islamistes, entretenus par qui ? Par l'Iran, qui a des visées d'hégémonie régionale, une puissance déstabilisatrice, selon Trump,
absurde.
Bien sûr. Il fallait rassurer l'allié saoudien, justement.
Oui, c'est absurde. C'est absurde d'accuser l'Iran d'être à l'origine du terrorisme djihadiste sunnite.
Qu'on connaît actuellement, bien sûr.
Il le combat tous les jours, les armes à la main. Donc c'est insensé. Mais ce qu'on voit, effectivement, et Jean-Christophe a raison de remarquer, c'est ce discours extrêmement violent contre l'Iran, alors même que, contrairement à ce qui se passe en Arabie Saoudite, parce que quand est-ce qu'il y a eu les dernières élections en Arabie Saoudite, hein ?
Bon, voilà. Vous avez raison, Jean-Dominique. Je cite le ministre des Affaires étrangères iranien, Monsieur Zarif, réaction ironique. Que disait-il en début de semaine ? L'Iran, qui vient de tenir de vraies élections, est attaqué par le président des États-Unis dans ce bastion de la démocratie et de la modération qu'est l'Arabie Saoudite.
Mais il a raison.
Il n'a pas tout à fait tort. Hein.
Il a raison. Ouais. Vous voyez, le peuple iranien qui massivement va aux urnes, vote de manière honnêtement transparente, choisit un candidat de l'ouverture, à la fois un candidat de l'ouverture à l'intérieur et de l'ouverture au monde. Un candidat qui a validé les accords sur le désarmement nucléaire. Et Trump, pendant ce temps-là, fait la cour aux deux ennemis mortels de l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Israéliens. On n'est pas dans une perspective de paix. On est dans une perspective d'affrontement. Et donc, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est pas rassurant. Et
est-ce qu'il y a deux blocs qui émergent comme ça? Iran-Russie d'un côté, Arabie Saoudite, États-Unis de l'autre?
Je pense que c'était le scénario que Obama voulait éviter.
Ouais.
Mais c'est le scénario vers lequel on va. C'est-à-dire que Trump, effectivement, se pose un petit peu en protecteur, on va dire, des musulmans sunnites. Et c'est effectivement très bizarre quand on sait tout ce qu'il disait pendant sa campagne électorale. Et de fait, du coup, rejette en quelque sorte l'Iran dans les bras de la Russie, ce que l'Iran voudrait pas forcément. Enfin, je pense qu'il voudrait avoir un jeu beaucoup plus pluriel.
Ouvert, bien
et
sûr,
c'est peut-être là, d'ailleurs, où l'on revient sur le golo-mitterrandisme. Là, l'enjeu pour la France, c'est précisément de ne pas tomber non plus dans la dichotomie et d'être un petit peu peut-être un pays favorisant le dialogue entre sunnites, chiites, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Jean-Christophe a raison, je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer en France et en Europe. Ouais. Mais en France en particulier, c'est sur l'attitude par rapport à l'Iran. Est-ce qu'on va suivre les Américains, ce que les néoconservateurs souhaiteraient, par hostilité à l'Iran, ou est-ce qu'on va au contraire être ouvert à l'Iran sur une vision gaullienne, en disant après, allons, faut discuter avec ces gens-là. Donc je pense que c'est sur ce sujet-là que ça va se décider.
400 milliards de contrats signés, dont 100 milliards en armement. Des armes pour quoi faire, Jean-Dominique Merchet? L'Arabie Saoudite va s'en servir pour quoi?
Ben déjà à faire la guerre, à continuer à faire la guerre au Yémen. Faut pas oublier qu'avec notre soutien, l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen, ne fait pas la guerre en Syrie, ne fait pas la guerre contre les djihadistes au nord, elle fait la guerre au sud et évidemment contre l'Iran.
Ouais. Jean-Christophe?
Oui, juste un mot pour dire, faut pas être naïf non plus par rapport à l'Iran. C'est effectivement un pays qui joue aussi la déstabilisation dans la région. Mais voilà, l'idée de jouer un peu, d'être en équilibre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est vraiment une perspective intéressante.
On va revenir justement dans un instant sur l'élection, la réélection du président Rouhani en Iran. On va essayer de savoir pourquoi justement ce triomphe dès le premier tour avec Jean-Christophe Ploquin et Jean-Dominique Merchet. On revient pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, pendant encore quelques minutes, en compagnie de Jean-Christophe Ploquin et de Jean-Dominique Merchet. Oui, gros plan pour terminer sur l'Iran. On en parlait il y a quelques secondes, désigné par les États-Unis comme faisant partie de l'axe du mal. Hein, l'Iran qui votait il y a un petit peu plus d'une semaine, c'était l'autre vendredi, hein, pour réélire son président Hassan Rouhani, 57% des voix dès le premier tour.
Aujourd'hui, le monde sait que la nation iranienne a choisi la voie de l'entente avec le monde. Il veut vivre en paix et dans l'amitié avec le reste du monde, mais n'accepte pas la menace et l'humiliation. C'est le principal message qu'il veut que le monde entende.
Voilà, le président Hassan Rouhani, donc réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, victoire face au candidat du guide suprême. Jean-Christophe Ploquin, vous étiez donc en Iran pour suivre la campagne au nom de la Croix. Qu'est-ce qui explique que Hassan Rouhani ait été réélu de la sorte, hein?
Alors, il y a d'abord le peuple iranien qui, dans sa très grande majorité, a ce désir d'ouverture. Il a subi pendant 8 ans, au temps de Mahmoud Ahmadinejad, une fermeture du pays. Ahmadinejad avait un discours de confrontation et disait aux Iraniens, le monde est contre vous et nous on va se débrouiller seul contre le monde. Et finalement, Rouhani, depuis les 4 ans qu'il a été déjà au pouvoir, a au contraire, grâce à l'accord sur le nucléaire, permis d'ouvrir un petit peu l'Iran sur le monde. Les Iraniens n'attendaient que cela et sont extrêmement aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les rues de Téhéran, de Shiraz, d'Ispahan, vous avez des Iraniens qui viennent vous voir, qui vous disent d'où venez-vous, qui vous parlent d'ailleurs de l'élection présidentielle française. Enfin voilà, ils sont au courant de tout ça. Et donc ce désir d'ouverture est extrêmement puissant aujourd'hui dans la société iranienne. La deuxième raison pour laquelle Rouhani a gagné, c'est que l'appareil finalement qui contrôle finalement l'Iran, une sorte d'état profond qui part du guide de la République, qui va jusqu'au passe d'Aran, les gardiens de la Révolution, qui contrôle des pans entiers de l'économie, cet appareil qui poussait plutôt l'autre candidat, Ibrahim Raisi, bah finalement n'a pas réussi, à la fois parce que Raisi a pas forcément fait une très bonne campagne et parce que finalement cette volonté du peuple était trop forte. Ils n'ont pas voulu rejouer le scénario de 2009 où ils avaient empêché finalement la victoire de candidats réformateurs et permis à Ahmadinejad de faire un deuxième mandat en tirant sur la foule. Ils n'ont pas voulu rééditer ça. Peut-être qu'ils n'en avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le capital politique pour le faire. Et donc Rouhani a pu gagner effectivement massivement.
Oui, alors test réussi. Donc apparemment, ce que vous nous dites, Jean-Christophe Ploquin, suite à son élection en 2013, l'ouverture internationale, l'accord sur le nucléaire qui a été réussi, levée des sanctions internationales, sauf venant des États-Unis, bien sûr. Mais où il en est le programme de modernisation, donc qui avait été promis, le quotidien de Monsieur, Madame, tout le monde, des Iraniens, est-ce qu'il s'est vraiment
amélioré. J'ai pas l'impression.
Alors non, ça n'a pas évolué.
Le chômage, il est toujours élevé.
Ouais, il y a quand même une croissance économique qui est là. Ouais. Mais de fait, aujourd'hui, par exemple, les banques françaises, les banques occidentales, ne sont toujours pas atterrantes.
À cause des États-Unis.
Voilà.
À
quand vous voulez utiliser votre carte bleue, ça passe par Dubaï, et vous payez en monnaie émirati. Mmh. Voilà. Donc les flux financiers entre l'Occident et l'Iran sont encore inexistants. Ou alors, il faut passer justement par ces moyens détournés. Et évidemment, ça limite considérablement les possibilités d'investissement en Iran et le développement économique tarde, effectivement. Mais apparemment, c'était l'argument principal contre Rouhani.
Voilà, du composé. Absolument. Et apparemment, les Iraniens et les Iraniennes ne lui en ont pas tenu rigueur, ont su faire peut-être la part des choses.
Effectivement.
Jean-Dominique Merchel, opinion.
Oui.
Quoi les prochains chantiers de Rouhani pour les 4 ans qui viennent?
Ah, c'est de poursuivre, c'est d'éviter le conflit, d'éviter le conflit avec les Américains. Il sera très intéressant d'observer ce que les Européens vont faire, ce que les Russes vont faire. Ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'on est dans une région du monde où tout bouge, y compris en Arabie Saoudite. Les gens veulent changer, clairement. Ça leur va plus. Là, il y a eu la révolution islamique en 1979 en Iran. On voit bien qu'une génération plus tard, les femmes ne rêvent que d'une chose, c'est d'enlever ce qui leur reste de foulard sur les cheveux et d'être un pays extrêmement laïcisé. Voilà. Et au fond,
même si elles prennent quelques libertés, justement, à la différence de l'Arabie Saoudite, où là, ça rigole
elles
moins.
Elles sont allées aux universités. La majorité des étudiants en Iran sont des femmes, et c'est aussi maintenant le cas, je crois, en Arabie Saoudite. Ça change. Ouais. Ces sociétés sont en train de bouger.
Le patron de la bourse de Riyad est une patronne, justement.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ça va bouger. Et de toute façon, que les institutions conservatrices qui tiennent ces sociétés, qui n'ont pas envie de perdre le pouvoir, personne n'a jamais envie de perdre le pouvoir, surtout quand il y a beaucoup d'argent qui vient grâce à ce pouvoir. Tôt ou tard, en Arabie Saoudite, il y a une transition qui est engagée avec ce jeune roi, futur roi MBS Mohamed Ben Salman. On ne sait pas où il va. Mmh. On ne sait pas où il va. C'est compliqué, mais tout bouge. Mmh. Alors ça bouge plus en Iran parce que c'est une société plus moderne, plus évoluée, plus démocratique, enfin plus républicaine en tout cas. Même s'il y a encore de la répression, des condamnations à mort. En Arabie Saoudite, c'est pas drôle, mais ça bouge aussi. Et partout dans le monde arabe, dans le monde musulman, partout, c'est en train de bouger.
Ça bouge, Jean-Christophe Ploquin?
Oui, ça bouge. Moi, je suis effectivement très curieux de voir ce qui va se passer en Arabie Saoudite dans les années qui viennent. C'est vrai que cette transition politique qui est en cours, mais qui est malaisée parce qu'il y a toujours une génération très âgée qui est au pouvoir et la génération plus jeune, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va pouvoir avancer. Mais c'est aussi l'évolution de la société. Vous avez raison de dire que de plus en plus de femmes, effectivement, sont aujourd'hui éduquées. Et donc, on a vu, il y avait ce film extraordinaire sur une jeune fille qui voulait faire du vélo. En Arabie Saoudite, qui montrait bien ça. Donc, ça bouge. Il faut que ça bouge de façon pacifique.
Allez, un dernier mot, Jean-Dominique.
Oui, les évolutions sociologiques et économiques sont longues. Parfois, les évolutions politiques sont très rapides. Ça peut se faire. Parfois vite, parfois ça se passe mal, parfois ça se passe bien. La France offre l'exemple d'une génération politique qui change assez vite. Donc on peut voir des choses comme ça. Voilà. Ne soyons pas toujours dans le pessimisme.
Merci à tous les deux. Merci Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du quotidien La Croix, en charge du service international. Merci Jean-Dominique Merchet qui nous a accompagnés, donc spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion et qui anime son blog Secret Défense. C'est fini pour 7 jours dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.